Qui es-tu ?
Alice.
C'est à voir.
Qu'entendez-vous par là ? Je sais qui je suis tout de même.
Oui, tu devrais le savoir, petite sotte.
Alice est une petite fille et elle s'endort. Elle rêve ou elle ne rêve pas, elle ne sait pas très bien et il lui arrive une aventure extraordinaire avec des gens très fous.
C'est bel et bien Alice. Tu es bel et bien Alice. Je te reconnaîtrai entre mille.
Ça peut pas faire de mal.
Comme tu peux le constater, nous prenons encore le thé. Tout ça parce que j'étais obligée de tuer le temps en attendant ton retour.
Il y a un chat qui est très très fou, qui disparaît parfois, qui réapparaît. Il y a une reine qui est très méchante et qui veut couper la tête de tout le monde.
Qu'est-ce qui t'amène ?
Et la reine, elle a des cartes à jouer comme garde. Il y en a certains très gentils et d'autres très méchants.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Dans cet après-midi doré, sur l'eau, nous glissons à loisir. De petits bras tiennent les rames qu'ils ont bien du mal à saisir. De faibles mains en vain prétendent nous guider selon leurs désirs. Là, les trois sœurs, impitoyables, sans souci du brûlant soleil, de moi exigent une histoire. Alors que j'incline au sommeil, se pourrait-il que je résiste à ces trois visages vermeils ? Prima, impérieuse, me somme de commencer sans plus tarder. Segunda, la plus gentille, espère beaucoup, beaucoup d'absurdités. Et Tertia interrompt le conte à chaque instant pour questionner. Bientôt réduites au silence, toutes trois suivent en rêvant l'enfant au pays des merveilles, où tout est si extravagant, où l'on bavarde avec les bêtes. Elles y croient, assurément. Et chaque fois que cette histoire laissait le narrateur sans voix et qu'il essayait de leur dire « La suite, la prochaine fois, nous y sommes » s'écriaient-elles toutes trois. Ainsi, l'histoire merveilleuse fut créée petit à petit. Tous ces événements bizarres ont pris forme et se sont bien finis, tandis que le soleil se couche, nous voguons vers notre logis. Prends cette histoire, chère Alice. Place-la de ta douce main, là où les rêves de l'enfance reposent lorsqu'ils ont pris fin, comme des guirlandes fanées, cueillies en un pays lointain. C'est par ce poème bucolique que le révérend Charles Ludwig Dodgson, plus connu sous son nom de plume Lewis Carroll, dédie à la petite fille qui l'a inspiré son célèbre roman « Les aventures d'Alice au pays des merveilles », publié en 1865. Tout commence par un bel après-midi d'été, 3 ans auparavant. Le 4 juillet 1862, Dodgson, alors professeur de mathématiques dans un collège d'Oxford, invite les filles de son directeur, M. Liddell, à faire une promenade en bateau. À bord de la barque, les trois ravissantes fillettes, Lorina, Alice et Edith, âgées de 13, 10 et 8 ans, le prient de leur raconter une histoire. 25 ans plus tard, se souvenant de cette scène, Lewis Carroll écrit, je cite, « Bien des années ont passé, mais je me rappelle distinctement, à l'heure où j'écris ces lignes, comment, cherchant un thème féerique original, j'avais pour commencer expédié mon héroïne au fond d'un terrier de lapins, sans avoir la moindre idée de ce qui se passerait ensuite. » La suite, nous la connaissons tous, improvisée au fil de l'eau, le récit d'Alice au pays des merveilles est devenu l'un des chefs-d'œuvre de la littérature enfantine. Symbole du nonsense anglais, il est aussi un conte plein d'humour sur les inconvénients de grandir et le fantasme de rester petit. Comme Alice plongeant dans le terrier, explorons à notre tour les méandres de l'imaginaire emprunté par Lewis Carroll. Nous parcourrons la traduction de Jacques Papy dans la collection Folio Classique. Ouvrons la première page de ce récit qui précipite le lecteur dans un monde à l'envers. Un autre après-midi d'été, l'univers d'Alice bascule dans l'absurde. Tout est sans dessus-dessous. La bonne élève perd ses connaissances et le sens des bonnes manières. Et le langage lui-même perd sa logique. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il ne contenait ni images ni dialogues. « Et, pensait Alice, à quoi peut servir un livre où il n'y a ni images ni dialogues ?» Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes. Lorsque brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle.
Vous avez vu ça ? C'était un lapin, je crois.
Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable. Et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier, comme dans un tunnel. Puis le sol s'abaissa brusquement. Si brusquement qu'Alice, avant d'avoir pu songer à s'arrêter, s'aperçut qu'elle tombait dans un puits très profond. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. « Voyons, ce serait une chute de 6 à 7 kilomètres, du moins je le crois. » Car, voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre. Et quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Bientôt, elle recommença. « Je me demande si je vais traverser la terre d'un bout à l'autre. Ce sera rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. » Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. « Seulement, je serais obligée de leur demander quel est le nom du pays. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ?» Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Quelle idée de faire la révérence pendant qu'on tombe dans le vide ! Croyez-vous que vous en seriez capable ? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. » Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir, j'en ai bien peur. » Dina était la chatte d'Alice. « J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. » « Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et ça, vois-tu, ça ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Je me le demande. » À ce moment, Alice commença à se sentir somnolente et elle se mit à répéter comme si elle rêvait « Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? » Et parfois, « Est-ce que les chauves-souris mangent les chats ?» Car voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre, elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon. Et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dina, la main dans la patte, en lui demandant très sérieusement « Allons Dina, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand brusquement, elle atterrit sur un tas de feuilles mortes et sa chute prit fin. Au fond du terrier, Alice se trouve prisonnière d'un étrange labyrinthe. Lorsqu'elle reprend ses esprits, la fillette découvre devant elle trois portes de tailles différentes. S'approchant de la plus petite d'entre elles, elle aperçoit par le trou de la serrure un merveilleux jardin qui attise sa curiosité. Mais sa gourmandise lui joue un vilain tour. Une mystérieuse boisson la fait rapetisser au point qu'elle ne peut attraper la clé qui ouvre la porte. Elle rêve alors de s'allonger comme une longue-vue. lorsqu'elle trouve un minuscule gâteau avec cette inscription « Mange-moi ». À la première bouchée, la voici qui se transforme au point de ne plus se reconnaître. Car grandir, c'est aussi douter de son identité. Juste à ce moment, sa tête cogna le plafond. En fait, elle mesurait à présent plus de 2,75 m. Elle s'empara immédiatement de la petite clé d'or et se hâta vers la porte du jardin. Pauvre Alice, tout ce qu'elle put faire fut de se coucher sur le flanc et de regarder d'un œil le jardin. Mais il était plus inutile que jamais d'essayer de franchir la porte. Elle s'assit et se mit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, dit-elle, une grande fille comme toi, c'était le cas de le dire, pleurer comme tu le fais. Veux-tu bien t'arrêter immédiatement ?» Mais elle n'en continua pas moins à verser des litres de larmes jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une grande mare, profonde de 10 cm, qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un bruit de petits pas pressés et elle s'essuya vivement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc et de l'autre un grand éventail. Il trottait aussi vite qu'il pouvait, et chemin faisant, il marmonnait à mi-voix « Oh, la duchesse, oh, ce qu'elle va être furieuse si je l'ai fait attendre !» Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours à n'importe qui. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix basse et timide « Je vous en prie, monsieur !» Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants de chevreau blanc et l'éventail, puis décampa dans les ténèbres aussi vite qu'il le put. Alice ramassa l'éventail et les gants. Elle se mit à s'éventer sans arrêt, tout en parlant. « Mon Dieu, comme tout est bizarre aujourd'hui. Pourtant, hier, les choses se passaient normalement. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. Voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Qui diable puis-je bien être ?» Ah, voilà le grand problème. Sur quoi elle se mit à passer en revue dans sa tête toutes les filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle avait pu être changée en l'une d'elles. « Je suis sûre de ne pas être Edith, se dit-elle, car elle a de très longues boucles, tandis que mes cheveux ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas être ma belle, car moi, je sais toutes sortes de choses, tandis qu'elle ne sait quasiment rien. De plus, elle est elle, et moi, je suis moi, et... Oh, quel casse-tête !» « Mon Dieu !» s'écria-t-elle en fondant brusquement en larmes. « J'en ai assez d'être toute seule ici !» Tout en disant cela, elle regarda ses mains et s'aperçut à sa grande stupeur qu'elle avait mis un des petits gants de chevreau blanc du lapin sans y faire attention. « Comment ai-je pu m'y prendre ? » songea-t-elle. « Je dois être en train de rapetisser. » Elle se leva et s'approcha de la table pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut que, autant qu'elle pouvait en juger, elle avait environ 65 cm de haut et ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que ceci était dû à l'éventail qu'elle tenait. Elle le lâcha en toute hâte, juste à temps pour éviter de disparaître tout à fait. « Cette fois, je l'ai échappé belle, » dit Alice. « Maintenant, à moi le jardin. » Elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Hélas, la petite porte était de nouveau fermée. La petite clé d'or se trouvait sur la table comme auparavant. Et les choses sont bien pires que jamais, pensa la pauvre fille. Car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent. Non, jamais. Ma parole, c'est vraiment un peu trop fort. Au moment où elle prononçait ces mots, son pied glissa. Et un instant plus tard, elle se trouvait dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer, elle ne savait comment. Et dans ce cas, songea-t-elle, je vais pouvoir rentrer par le train. Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie, elle en avait tiré la conclusion générale que partout où on allait sur les côtes anglaises, on trouvait des cabines de bain roulantes dans l'eau, des enfants en train de faire des trous dans le sable avec des pelles de bois, puis une rangée de pensions de famille et enfin une gare de chemin de fer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare des larmes qu'elle avait versées au moment où elle avait 2,75 m de haut. « Comme je regrette d'avoir tant pleuré !» s'exclama-t-elle tout en nageant pour essayer de se tirer de là. « Je suppose que, en punition, je vais me noyer dans mes propres larmes. C'est ça qui sera bizarre. Pour ça, oui, il est vrai que tout est bizarre aujourd'hui. »
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Little red and butterflies kiss the tulips, and the sun is like a time balloon. There I get up in the morning glories in the golden afternoon. There are dizzy daffodils on the hillside, strings of violets are all in tune. Tiger lilies love the dandelions in the golden afternoon. There are dock and caterpillars and a copper centipede where the lazy daisies love the very peaceful life they lead. You can learn a lot of things from the flowers, for especially in the month of June, there's a wealth of happiness and romance.
Vous en allez déjà?
Non, vous venez tout juste d'arriver.
Je suis absolument désolée.
Voulez-vous jouer à cache-cache? Ou peut-être au furet? Où est le furet?
Non, je regrette, je dois.
Si vous restez, vous pourrez voir une belle bagarre.
Vous êtes très gentils tous les deux, mais je dois m'en aller. Parce que je veux retrouver un lapin blanc.
Pourquoi?
Eh bien, je suis curieuse de savoir où il court si vite.
À peine remise de ses émotions, Alice cherche un moyen de retrouver sa taille normale. Au fil de ses expériences dans ce monde étrange où les proportions et le langage lui-même semblent déboussolés, la fillette comprend qu'elle rencontre sur son chemin des aliments qui la font grandir ou rapetisser. Elle médite sur les avantages de rester petite. D'un côté, ce serait bien réconfortant de ne jamais devenir une vieille femme, mais d'un autre côté, avoir des leçons à apprendre toute sa vie, « Oh, je n'aimerais pas ça du tout », se dit-elle. Mais pour l'heure, il lui faut au moins retrouver sa taille d'enfant, car la voici aussi haute que les étranges créatures, plantes et insectes qui peuplent le sous-bois. La situation devient de plus en plus absurde. Alice regarda les fleurs et les brins d'herbe autour d'elle sans rien voir qui ressemblât à la chose qu'il fallait manger ou boire selon les circonstances. Tout près d'elle se dressait un champignon à peu près de sa taille. Quand elle eut regardé sous le champignon, derrière le champignon et des deux côtés du champignon, l'idée lui vint qu'elle pourrait également regarder ce qu'il y avait sur le dessus du champignon. Elle se dressa sur la pointe des pieds, jeta un coup d'œil attentif et son regard rencontra immédiatement celui d'une grosse chenille bleue, assise, les bras croisés, fumant tranquillement un long narguilé, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce fût. La chenille et Alice se regardèrent un bon moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilé de sa bouche, puis demanda d'une voix languissante et endormie « Qui es-tu ?» Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'un ton timide « Je ne sais pas très bien, madame, du moins pour l'instant. Je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. »« Que veux-tu dire ?» demanda la chenille d'un ton sévère. « Explique-toi. Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous ? Non, je ne vois pas. » « J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, » reprit Alice avec beaucoup de politesse, « car tout d'abord, je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Et de plus, ça vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. »«
Pas du tout.
Vous ne vous en êtes pas aperçu jusqu'à présent, mais quand vous serez obligé de vous transformer en chrysalide, ça vous arrivera un de ces jours, vous savez, puis en papillon, je suppose que ça vous paraîtra un peu bizarre. Certainement pas. Tout ce que je sais, c'est que ça me paraîtrait extrêmement bizarre à moi. À toi ? Et qui es-tu, toi ? S'exclama la chenille d'un ton de mépris. Ce qui les ramenait au début de leur conversation. Alice, un peu irritée de ce que la chenille lui parla si sèchement, se redressa de toute sa hauteur et déclara d'un ton solennel « Je crois que c'est vous qui devriez d'abord me dire qui vous êtes. Pourquoi ?» La question était fort embarrassante. Et comme la chenille semblait être d'humeur très désagréable, la fillette s'éloigna. « Reviens !» lui cria la chenille. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Ceci semblait plein de promesses. Alice fit demi-tour et revint. « Ne te mets jamais en colère !» déclara la chenille. « C'est tout ?» demanda Alice en maîtrisant sa fureur de son mieux. « Non !» répliqua la chenille. Alice pensa qu'elle pourrait aussi bien attendre, puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire. Peut-être qu'après tout, la chenille lui dirait quelque chose qui vaudrait la peine d'être entendue. Pendant quelques minutes, la chenille fuma en silence. Puis finalement, elle décroisa ses bras et dit « Donc tu te crois changée, n'est-ce pas ?»« J'en ai peur, madame, et je change de taille toutes les 10 minutes. »« Quelle taille veux-tu avoir ?»« Je ne suis pas tellement difficile pour ce qui est de la taille. Ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est d'en changer si souvent, voyez-vous. »« Non, je ne vois pas. » Alice garda le silence. Jamais elle n'avait été contredite tant de fois. Et elle sentait qu'elle allait se mettre en colère. « Es-tu satisfaite de ta taille actuelle ?» demanda la chenille. « Ma foi, si ça vous était égal, j'aimerais bien être un tout petit peu plus grande. 8 cm, c'est vraiment une bien piètre taille. »« Moi, je trouve que c'est une très bonne taille !» s'exclama la chenille d'un ton furieux en se dressant de toute sa hauteur. Elle avait exactement 8 cm. « Mais moi, je n'y suis pas habituée !» dit Alice d'une voix pitoyable afin de s'excuser. Et elle pensa « Je voudrais bien que toutes ces créatures ne se vexent pas si facilement. »« Tu t'y habitueras au bout d'un certain temps !» affirma la chenille. Après quoi, elle porta le narguilé à sa bouche et se remit à fumer. Cette fois, Alice attendit patiemment qu'il lui plût de parler. Au bout d'une ou deux minutes, la chenille bâilla une ou deux fois et se secoua. Puis elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en rampant après avoir prononcé ces simples mots. « Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser. »« Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ?» pensa Alice. « Du champignon, » dit la chenille, exactement comme si la fillette avait posé ses questions à haute voix. Après quoi la chenille disparut. Alice regarda pensivement le champignon en essayant de distinguer où se trouvaient les deux côtés. Mais comme il était parfaitement rond, le problème lui parut bien difficile. Néanmoins, elle finit par étendre les deux bras autour du champignon aussi loin qu'elle le put et en détacha un morceau de chaque main. « Et maintenant, lequel des deux est le bon ?» se dit-elle. Là-dessus, elle grignota un petit bout du morceau qu'elle tenait dans sa main droite pour voir l'effet produit. L'instant d'après, elle ressentit un coup violent sous le menton. Il était tombé sur ses pieds. Terrifiée par ce changement particulièrement soudain, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre car elle diminuait rapidement. Elle entreprit de manger un peu de l'autre morceau. « Enfin, ma tête est dégagée !» s'exclama-t-elle d'un ton ravi. Mais presque aussitôt, son ravissement se transforma en vive inquiétude lorsqu'elle aperçut que ses épaules ne se trouvaient nulle part. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant vers le bas, c'était une immense étendue de cou qui semblait se dresser comme une tige au-dessus d'un océan de feuilles vertes. « Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure ? » poursuivit-elle. « Oh, mes pauvres mains, comment se fait-il que je ne puisse pas vous voir ?» Et elle les remuait tout en parlant, mais sans obtenir d'autre résultat que d'agiter les feuillages lointains. Elle essaya alors d'amener sa tête au niveau de ses mains, et elle fut enchantée de découvrir que son cou se tordait aisément dans toutes les directions. Au bout d'un moment, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les deux morceaux de champignons. Alors elle se mit prudemment à la besogne, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, parfois devenant plus grande, parfois devenant plus petite, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à retrouver sa taille normale. « Comme tous ces changements sont déconcertants. D'une minute à l'autre, je ne sais jamais ce que je vais être. En tout cas, j'ai retrouvé ma taille normale. Reste maintenant à pénétrer dans le beau jardin. » Et ça, je me demande comment je vais m'y prendre.
Lorsqu'elle accède enfin au jardin, Alice n'est pas au bout de ses surprises. L'univers de Lewis Carroll est peuplé d'animaux doués de paroles. On y reconnaît le canard, hommage à son collègue Duckworth, et Dodo, qui n'est autre que Dodgson lui-même, se moquant d'un défaut dont il a souffert toute sa vie, le bégaiement. Après sa rencontre avec une chenille fumeuse de narguilé, Alice fait la connaissance d'une étrange créature, à la forme pourtant familière. Mais là encore, la réalité lui échappe. Du haut de son arbre, le chat se contenta de sourire en voyant Alice. Elle lui trouva l'air fort aimable. Néanmoins, il avait des griffes extrêmement longues et un très grand nombre de dents. C'est pourquoi elle sentit qu'elle devait le traiter avec respect. « Minée du comté de Chester », commença-t-elle assez rapidement, car elle ne savait pas trop si ce nom lui plairait. Le chat s'étant contenté de sourire plus largement, Alice pensa « Allons, jusqu'ici, il est satisfait ». Et elle continua. « Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ?»«
Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. » »«
Peu importe l'endroit. »
« En ce cas, peu importe la route que tu prendras. »«
Pourvu que j'arrive quelque part !» ajouta Alice en guise d'explication.
« Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part si tu marches assez longtemps. »
Alice comprit que c'était indiscutable. En conséquence, elle essaya une autre question. « Quelle espèce de gens trouve-t-on dans ces parages ?»
« Dans cette direction-ci, » répondit le chat en faisant un geste de sa patte droite, « habite un chapelier. Et dans cette direction-là, » il fit un geste de sa patte gauche, « habite un lièvre de Mars. Tu peux aller rendre visite à l'un ou à l'autre. Ils sont fous tous les deux.
Mais je ne veux pas aller chez les fous.
Impossible de faire autrement. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou. » « Tu es folle. »«
Comment savez-vous que je suis folle ?»«
Si tu n'étais pas folle, tu ne serais pas venue ici. »
Alice pensa que ce n'était pas une preuve, mais elle continua. « Et comment savez-vous que vous êtes fou ?»«
Pour commencer, est-ce que tu m'accordes qu'un chien n'est pas fou ?»«
Bon, sans doute. »
« Eh bien, vois-tu, un chien gronde lorsqu'il est en colère et remue la queue lorsqu'il est content. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou.
Moi, j'appelle ça ronronner, pas gronder. »
« Appelle ça comme tu voudras. Est-ce que tu es de la partie de croquer de la reine cet après-midi ?»«
Je voudrais bien, mais je n'ai pas encore été invité.
Tu m'y verras. »
Et il disparut.
Alice ne s'en étonna guère, tellement elle était habituée à voir se passer des choses bizarres. Pendant qu'elle regardait l'endroit où le chat s'était trouvé, il réapparut.
« Je voudrais bien que vous n'apparaissiez pas et ne disparaissiez pas si brusquement. Ça me fait tourner la tête. »«
C'est bon, » dit le chat.
Et cette fois, il disparut très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui resta un bon bout de temps quand tout le reste eut disparu.
« Ma parole, » pensa Alice. « J'ai souvent vu un chat sans un sourire, mais jamais un sourire sans un chat. C'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais vue de ma vie. »
Mais des événements bien plus curieux attendent Alice.
Suivant les indications du chat de Chester, la fillette se rend chez le lièvre de Mars, qu'elle trouve en compagnie du chapelier. C'est l'heure du thé. Les voici attablés, accoudés sur le dos d'un loir endormi. Mais Alice n'est pas la bienvenue et la tension monte entre les hôtes, s'accusant l'un et l'autre de manquer aux règles les plus élémentaires de la politesse. Bientôt, un dialogue absurde s'engage entre eux. Le chapelier fut le premier à rompre le silence.
« Quel jour sommes-nous ? » demanda-t-il en se tournant vers Alice.
Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet, en la secouant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un moment avant de répondre.
« Le 4.
Elle retarde de 2 jours, murmura le chapelier en soupirant. « Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages », ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars d'un air furieux. « C'était le meilleur beurre que j'ai pu trouver », répondit l'autre d'un ton humble. « Sans doute, mais quelques miettes ont dû entrer en même temps », grommela le chapelier. « Tu n'aurais pas dû mettre le beurre avec le couteau à pain ». Le lièvre de Mars prit la montre, la regarda tristement, puis la plongea dans sa tasse de thé et la regarda de nouveau. Mais il ne trouva rien de mieux à dire que ce qu'il avait déjà dit. « C'était le meilleur beurre que j'ai pu trouver ». Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité, s'exclama « Quelle drôle de montre ! Elle indique le jour du mois et elle n'indique pas l'heure. »« Pourquoi indiquerait-elle l'heure ?» murmura le chapelier. « Est-ce que ta montre à toi indique l'année où l'on est ?»« Bien sûr que non, » répondit Alice sans hésiter. « Mais c'est parce qu'elle reste dans la même année pendant très longtemps. »
« Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi !»
affirma le chapelier. Alice se sentit terriblement déconcertée. Cette remarque semblait n'avoir aucun sens. « Je ne comprends pas très bien, » dit-elle aussi poliment qu'elle le put.
« As-tu deviné la devinette ? Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ?»
demanda le chapelier en se tournant vers Alice.
« Non, j'y renonce. Quelle est la réponse ?»«
Je n'en ai pas la moindre idée, » dit le chapelier.
« Oh, moi non plus, » dit le lièvre de Mars. Alice poussa un soupir de lassitude. « Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, » déclara-t-elle, « que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. »«
Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, » dit le chapelier, « tu ne parlerais pas de le perdre. Le temps est un être vivant. »«
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » répondit Alice.
« Mais naturellement, » s'exclama-t-il en rejetant la tête en arrière d'un air de mépris, « je suppose bien que tu n'as jamais parlé au temps. »
« Peut-être que non, » répondit-elle prudemment. « Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je batte les temps quand je prends ma leçon de musique. »«
Ah, ça explique tout. Le temps ne supporte pas d'être battu. Si tu étais en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que tu voudrais de la pendule. Tu pourrais faire rester la pendule sur l'heure que tu voudrais. »«
Ah, est-ce ainsi que vous faites, vous ?»
Le chapelier secoua négativement la tête d'un air lugubre.
« Hélas, non, » répondit-il. « Nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou. »
Il montra le lièvre de Mars de sa cuillère à thé. « C'était un grand concert donné par la reine de cœur, où je devais chanter. Eh bien, j'avais à peine fini le premier vers, que la reine se leva d'un bond en hurlant.
« Il n'observe pas les pauses entre les mots. Il massacre le temps qu'on lui coupe la tête.
« Quelle horrible cruauté !» s'exclama Alice. Et depuis ce jour-là, continua le chapelier d'un ton lugubre, « le temps refuse de faire ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures à présent. »«
Est-ce pour cela qu'il y a autant de tasses à thé sur la table ?» demanda soudain Alice.
« Oui, c'est pour ça, » répondit le chapelier en souriant. « C'est toujours l'heure du thé et nous n'avons jamais pris le temps de faire la vaisselle. »
« En tout cas, je ne reviendrai jamais par ici, » pensa Alice. « C'est le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté de ma vie. Comme tout est curieux aujourd'hui. »
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
A growing forest is not as noisy as a single fallen tree. Scary episodes don't tell us what the whole story's gonna be. Devastated land.
Découvrons à présent la terrifiante reine de cœur au cours d'une partie de croquet surréaliste. Dans le terrier où est tombée Alice, tous les chemins semblent revenir au point de départ. Le jardin, tant convoité par la fillette au début de ses aventures, s'avère être le terrain de jeu préféré de la reine. Après le défilé haut en couleur de la garde rapprochée, voici que le match commence.
Prenez vos places,
cria la reine d'une voix de tonnerre. Sur quoi tous se mirent à courir dans tous les sens, en se cognant les uns contre les autres. Néanmoins, au bout d'une ou deux minutes, chacun se trouva à son poste et la partie commença. Alice n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi bizarre. Il était tout en creux et en bosse. Les boules étaient des hérissons vivants, les maillets des flamants roses vivants. Et les soldats devaient se courber en deux, pieds et mains placés sur le sol pour former des arceaux. Dès le début, Alice trouva que le plus difficile était de se servir de son flamant. Au moment précis où, après lui avoir mis le cou bien droit, elle s'apprêtait à cogner sur le hérisson avec sa tête, le flamant ne manquait pas de se retourner et de la regarder bien en face d'un air si intrigué qu'elle ne pouvait s'empêcher de rire. D'autre part, quand elle lui avait fait baisser la tête et s'apprêtait à recommencer, elle trouvait on ne peut plus exaspérant de s'apercevoir que le hérisson s'était déroulé et s'éloignait lentement. Et comme, en outre, les soldats courbés en deux n'arrêtaient pas de se redresser pour s'en aller vers d'autres parties du terrain, Alice en vint bientôt à conclure que c'était vraiment un jeu difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps sans attendre leur tour. Ils se disputaient sans arrêt et s'arrachaient les hérissons. Au bout d'un instant, la reine, entrant dans une colère furieuse, parcourut le terrain en tapant du pied et en criant « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !» à peu près une fois par minute. Alice commença à se sentir très inquiète. À vrai dire, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et dans ce cas, pensait-elle, qu'est-ce que je deviendrais ? Ils sont terribles avec leur manie de couper la tête aux gens. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a encore des survivants. Elle était en train de regarder autour d'elle pour voir s'il y avait un moyen de s'échapper, lorsqu'elle remarqua une curieuse apparition dans l'air. Elle fut tout d'abord intriguée, car elle n'arrivait pas à distinguer ce que c'était. Mais après avoir regardé attentivement pendant une ou deux minutes, elle comprit que c'était un sourire. Et elle pensa... C'est le chat du comté de Chester. Je vais enfin pouvoir parler à quelqu'un. Comment vas-tu ? Dit le chat dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit l'apparition des yeux pour le saluer d'un signe de tête.
Au bout d'une minute, toute la tête était visible. Alice posa alors son flamant et se mit à raconter la partie de croquet, toute heureuse d'avoir quelqu'un qui voulut bien l'écouter. « Que penses-tu de la reine ?» demanda le chat à voix basse. « Elle ne me plaît pas du tout. Elle est tellement... » Juste à ce moment, elle s'aperçut que la reine était tout près derrière eux en train d'écouter. C'est pourquoi elle continua ainsi. Tellement sûre de gagner que c'est presque inutile de finir la partie. La reine passa son chemin en souriant. Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien de rejoindre les joueurs pour voir où en était la partie, car elle entendait à nouveau dans le lointain la voix de la reine qui hurlait de colère. Malgré ses efforts pour rester discrète, Alice est confrontée à la justice tyrannique du roi et de la reine. Quelques pages plus loin, la fillette est convoquée comme témoin. Au procès d'un malheureux innocent, le valet de cœur est accusé d'avoir volé des tartes. Orchestrée par le lapin blanc, la procédure interroge le chapelier qui évite de justesse la sentence fatale. Alice, qui recommence soudain à grandir, prend de l'assurance et domine bientôt la situation. Nous approchons du dénouement de l'histoire.
« Que savez-vous de cette affaire ?» demanda le roi à Alice.
« Rien. »«
Absolument rien ?»«
Absolument rien. »«
Voilà une chose d'importance !» déclara le roi en se tournant vers les jurés.
Ceux-ci s'apprêtaient à écrire sur leur ardoise lorsque le lapin blanc intervint. « Votre Majesté a voulu dire « sans importance, naturellement », dit-il d'un ton très respectueux, mais en fronçant les sourcils et en faisant des grimaces.
« Sans importance, naturellement, ai-je voulu dire », reprit vivement le roi.
Après quoi, il se mit à répéter à voix basse, pour lui tout seul, « d'importance,
sans importance,
d'importance,
sans importance, sans importance, d'importance »,
comme s'il essayait de trouver ce qui sonnait le mieux. Puis le roi, qui avait été pendant quelque temps fort occupé à griffonner sur son carnet, cria «
Silence !»
et il se mit à lire, à voix haute, « Article 42. Toute personne dépassant 1 kilomètre de haut doit quitter le tribunal. » Chacun regarda Alice. « Moi, je n'ai pas 1 kilomètre de haut, dit Alice.
« Si fait !» affirma le roi.
« Près de 2 kilomètres !» ajouta la reine.
« De toute façon, je ne m'en irai pas, » déclara Alice. « D'ailleurs, cet article ne fait pas partie du code. Vous venez de l'inventer à l'instant. »«
C'est l'article le plus ancien du code, » dit le roi.
« En ce cas, il devrait porter le numéro 1, » fit observer Alice. Le roi pâlit et referma vivement son carnet.
« Délibérez pour rendre votre verdict, » ordonna-t-il au juré d'une voix basse et tremblante.
« Non, non, » dit la reine. « La sentence d'abord, la délibération ensuite !»«
C'est stupide !» protesta Alice d'une voix forte. « En voilà une idée !»«
Taisez-vous !»
ordonna la reine, pourpre de fureur. « Je ne me tairai pas !» répliqua Alice.
« Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !» hurla la reine de toutes ses forces.
Personne ne bougea.
« Qui fait attention à vous ?»
demanda Alice, qui avait maintenant retrouvé sa taille normale. « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes !» À ces mots, toutes les cartes montèrent dans l'air et lui retombèrent dessus. Elle poussa un cri de colère et de frayeur, essaya de les repousser avec ses mains et se retrouva couchée sur le talus, la tête sur les genoux de sa sœur, qui enlevait doucement de son visage quelques feuilles mortes tombées des arbres. « Alice, ma chérie, réveille-toi, lui dit sa sœur. Comme tu as dormi longtemps. « Oh, quel rêve bizarre je viens de faire !» s'exclama Alice. Et elle se mit à raconter, autant qu'elle pouvait se les rappeler, toutes les étranges aventures que vous venez de lire.
Sleigh bells ring, are you listening? In the land, snow is glistening, a beautiful sight. We are happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. walking in the winter wonderland. In the matter we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in the winter wonderland. As we dream by the fire to face unafraid new plans that we made, walking while we walking in a winter wonderland.
Et voici pour conclure l'ultime épilogue de Lewis Carroll. Apparu furtivement au début du récit, il revient à la sœur d'Alice de clore ce voyage au pays des merveilles. Après le départ d'Alice, l'aînée, restée seule, médite sur la frontière entre le rêve et la réalité et sur le temps qui passe. Voici la dernière page du roman qui évoque avec tendresse le trésor mélancolique de l'enfance. Sa sœur resta assise sans bouger à l'endroit où sa cadette l'avait laissée, la tête appuyée sur une main, regardant le soleil se coucher, songeant à Alice et à ses merveilleuses aventures, jusqu'à ce qu'elle aussi se mit à rêver tout éveillée. Et voici quel fut son rêve. D'abord, elle rêva de la petite Alice. De nouveau, les petites mains furent croisées sur ses genoux. Les yeux avides et brillants furent fixés sur les siens. Elle crut entendre le timbre même de sa voix. Et tandis qu'elle écoutait, ou croyait écouter, il lui sembla voir s'agiter autour d'elle les créatures bizarres du rêve de sa petite sœur. Les longues herbes se mirent à bruire à ses pieds tandis que le lapin blanc passait en hâte. Elle entendit le bruit des tasses à thé du lièvre de Mars et de ses amis éternellement attablés devant leur éternel goûter et la voix aiguë de la reine ordonnant l'exécution de ses malheureux invités. Elle resta ainsi les yeux fermés, croyant presque être au pays des merveilles, tout en sachant fort bien qu'il lui suffirait de les rouvrir pour retrouver la terne réalité. L'herbe ne bruirait plus qu'au souffle du vent. Le tintement des tasses à thé deviendrait le tintement des clochettes des moutons. Les cris aigus de la reine ne seraient plus que la voix du petit berger. Et tous les autres bruits étranges se transformeraient, elle ne le savait que trop, en la rumeur confuse qui montait de la basse-cour non loin de là. Finalement, elle se représenta cette même petite fille devenue femme. Elle était certaine que dans les années à venir, Alice garderait son cœur d'enfant. Si aimant et si simple. Elle rassemblerait autour d'elle d'autres petits-enfants, ses enfants à elle, et ce seraient leurs yeux à eux qui deviendraient brillants et avides en écoutant maintes histoires extraordinaires, peut-être même cet ancien rêve du pays des merveilles. Elle partagerait tous leurs simples chagrins et prendrait plaisir à toutes leurs simples joies, en se rappelant sa propre enfance et les heureuses journées d'été.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Olivier Dupré, Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousi-Liqua, Perrine Malinche, Fanny Leroy et Claire Tesser. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine.